Eh bien, moi aussi, j'aimerais vous saluer ce matin, ceux qui sont ici en présentiel et certainement ceux qui nous écoutent en ligne. On est vraiment content de vous avoir avec nous. Et moi aussi, j'aimerais me joindre à notre frère Dominique qui vous invite à venir cet après-midi à 3 heures à notre réunion de célébration. C'est vraiment une réunion de célébration parce qu'on veut remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait au courant de l'année. Je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière à la réunion d'information, mais c'est quand même assez... impressionnant de voir tout ce que le Seigneur a fait au courant de cette année, une année vraiment inusitée, sans précédent. Malgré cela, le Seigneur a été fidèle. Il y a toutes sortes de beaux projets, même pour l'année qui s'en vient. Et on aimerait vous présenter cet après-midi, justement, le budget, faire le bilan un peu de ce qui se passe financière. On l'a présenté la semaine dernière. On a un budget qu'on veut voter cet après-midi. Vous serez appelés à voter aussi pour des projets. Et on a deux propositions aussi en plus, deux personnes qu'on aimerait vous proposer cet après-midi. Évidemment, ça commence avec Dominique. Dominique qui vient de finir son 2 ans, qu'on pourrait appeler 2 ans comme ancien, 2 ans probatoire en quelque sorte. Et nous, les anciens, on l'a vu depuis 2 ans, et même vous, ça fait quand même plusieurs années qu'il vient ici. Et puis, on l'a vu grandir, on l'a vu ce gars-là vraiment passionné, un gars collé à la parole de Dieu, qui remplit tous les critères d'anciens. Et nous, on l'a vu comme au conseil, réfléchir avec nous, prendre des décisions avec nous. Et puis, c'est vraiment un gars qui a il a une vision, il a à cœur la mission, à cœur de voir l'œuvre de Dieu avancer. Et nous, on a vu depuis 2 ans, en tout cas, certainement, on a vu Dieu confirmer son appel comme ancien, un gars qui grandit beaucoup dans le Seigneur, et c'est vraiment agréable. On est très contents, à l'unanimité, comme ancien, de vous le proposer comme ancien cet après-midi. Une autre personne aussi qu'on veut vous proposer cet après-midi, c'est un ouvrier en formation, Sergueï Lee. Hey, comment vous décrire notre cher Sergueï? Quel homme! Vous l'avez entendu la semaine passée, si vous étiez à la réunion d'information. Un gars de 25 ans, mais on dirait qu'il a 40 ans. Un gars tellement plein d'expérience, une expérience internationale. Un gars qui a à cœur la jeunesse, il a une vision pour la jeunesse. Un gars qui est passionné de voir Dieu aussi avancer son œuvre. Alors, on est vraiment content de voir ces deux hommes-là s'ajouter à notre équipe, Dieu voulant. Et on aimerait que vous puissiez venir cet après-midi. Vraiment, deux hommes. Sergueï va travailler 2 jours par semaine auprès de la jeunesse. C'est un ouvrier en formation, donc on veut s'investir en lui. Et lui, en retour, veut s'investir auprès de la jeunesse. Il va y avoir une 3e journée comme étudiant à Sembec pour continuer ses études en études bibliques. Donc, c'est vraiment des hommes doués. Les deux couples, d'ailleurs, Kelsey, Sergueï, Kim, Dominique, c'est vraiment des dons que Dieu fait à notre Église. Et ça, c'est excitant. Vous savez, la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, dit que Dieu fait des dons à son Église. Et les dons dont il est question dans le chapitre, ce sont des gens doués. Et c'est vraiment des dons que Dieu fait. Et certainement, ces deux couples qui arrivent à notre Église, là, c'est vraiment des dons que Dieu fait. Et vous savez, moi, quand je regarde ça, ce qui est excitant, c'est que lorsque Dieu fait des dons de gens doués à son Église, c'est qu'il se prépare à faire quelque chose de grand. Amen. Alors ça, c'est vraiment excitant. Le conseil est donc tout sourire de vous proposer à l'unanimité ces deux bonhommes-là, ces deux hommes, Dominique et Sergueï. Et on pourrait prier tout de suite ensemble, d'ailleurs, non seulement pour la réunion de cet après-midi, mais aussi pour notre temps ensemble, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui sont ici, afin que Dieu puisse toucher nos cœurs par sa parole. Alors, prions, si vous voulez. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour tout ce que tu fais. Te remercier pour ta grâce, pour tes bontés. Te remercier pour toutes tes miséricordes, Seigneur, que tu nous donnes. Tes bontés, oui, se renouvellent chaque matin. Nous te louons, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole, ce testament que tu nous as laissé qui révèle ton cœur, pour ta parole qui parle à nos cœurs, qui nous aide à grandir dans la foi et en connaissance, pour mieux te connaître. Tu te révèles à nous, Seigneur, à travers ta parole. Et ce matin, alors qu'on ouvre les Écritures saintes, on prie que ton Esprit Saint puisse nous aider à mieux comprendre cette parole et ce message divin qui vient de ton cœur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Eh bien, nous sommes en train de regarder une thématique depuis 2 semaines, 3e semaine en fait, ce matin, sur la question de la foi. On est en train de faire une série, vous savez, dans le livre aux Hébreux, qui s'intitule « Jésus meilleur que tout ». Et depuis trois semaines, on est en train de regarder le chapitre 11 du livre aux Hébreux qui parle vraiment de la foi. Et dans ce chapitre, l'auteur veut nous montrer à quoi ça ressemble, ce marché par la foi. Il va donner d'ailleurs plusieurs exemples de personnes. Alors, il explique ce que c'est que la foi. Après ça, il va donner plusieurs exemples de personnes qui, à travers l'histoire, ont marché par la foi dans des circonstances très difficiles où ce n'était pas évident de marcher par la foi. Ce sont des personnages qui sont bien connus dans le milieu juif, des gens qui proviennent de l'Ancien Testament. Mais pour ceux qui sont nouveaux, peut-être que vous connaissez moins ces personnages, mais on est en train de les regarder ensemble depuis quelques semaines. En fait, le chapitre 11 fait la liste d'environ 19, une vingtaine de personnages qui viennent de l'histoire de l'Ancien Testament. Et ils ont tous une chose en commun. Ils ont marché par la foi quand c'était difficile. Lorsqu'on arrive au chapitre 12, d'ailleurs, le chapitre juste suivant, vous savez, à l'époque de l'Antiquité, lorsque cette parole a été donnée, lorsque le livre aux Hébreux a été écrit, a été donné, il n'y avait pas vraiment de division comme de chapitres et de versets. C'est arrivé plus tard, et Dieu merci, ça nous permet de tourner plus vite. Mais alors, il faut voir ça comme continu. Et ce qu'on voit au chapitre 12, après avoir énuméré toute cette vingtaine de héros de la foi, il va dire au verset 1, « Nous qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, alors les témoins qu'il vient d'énumérer, qui ont marché par la foi dans des temps difficiles, voici son message. » Alors, il arrive avec une exhortation très pratique, comme il le fait habituellement dans différents chapitres. « Après avoir entendu tout le témoignage de ces héros de la foi, rejetons tout ce qui peut nous ralentir dans notre vie chrétienne et courons avec persévérance. » Le message est simple et c'est direct. Et s'il y a une chose qu'on a besoin de retenir ici dans ce chapitre, c'est ceci. C'est qu'une foi vibrante, ce n'est pas hors de notre portée. Ce n'est pas pour les héros, ce n'est pas pour les grands, ce n'est pas pour les géants de la foi. C'est vraiment un enfant de 6 ans peut avoir cette foi vibrante. Ce n'est pas réservé aux érudits de la Bible, aux grands théologiens. C'est à la portée de tous les nouveaux chrétiens, comme des femmes et des hommes qui marchent avec le Seigneur depuis des années. La foi vibrante est même à la portée de la personne qui lutte en ce moment avec toutes sortes de défis. Parce que la foi vivante est réellement simple. Et quelle est cette foi? Quel est le genre de foi que même un enfant de 6 ans peut avoir? Eh bien, c'est d'avoir suffisamment confiance en Dieu pour faire ce qu'il nous demande. C'est de faire suffisamment confiance en Dieu pour faire ce qu'il dit, dans le fond, dans sa parole. Et c'est ce que tous ces personnages que nous voyons au chapitre 11 ont fait quand ça allait mal, pas juste quand ça allait bien, et même lorsqu'ils vivaient à travers des moments très dangereux. Le chapitre est vraiment magnifique. L'auteur nous aide à comprendre ce que ça signifie que de marcher par la foi, particulièrement dans des périodes difficiles. Rappelez-vous le chapitre qui précède au chapitre 10, vers la fin du chapitre, au verset 37, voici ce que ça dit. « Encore bien peu de temps, celui qui doit venir viendra. » En d'autres mots, Jésus va revenir. « Il ne tardera pas et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » Alors, vous et moi, nous sommes appelés à marcher par la foi. Alors, vers la fin du chapitre 11, l'auteur veut nous montrer et nous enseigner ce que ça signifie que de vivre par la foi, et particulièrement dans les moments difficiles. Il nous invite à travers une marche rapide, à travers une succession d'histoires de croyants de l'Ancien Testament qui ont vécu justement des moments très éprouvants dans leur vie. Mais ils ont marché par la foi. Et après avoir fait ce tsunami, si l'on veut, de témoins qui vont déferler au chapitre 11, il arrive à son exhortation pratique pour nous au chapitre 12, verset 1. Il dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance. » Ça, c'est son exhortation, c'est son message. Après avoir vu tous ces témoignages, « Courons avec persévérance. » L'épreuve, la course qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, courons avec persévérance cette course. Une image de la vie chrétienne, finalement, une course, gardant les yeux sur Jésus. Une belle image, alors que la course de l'Antiquité se voulait avoir le juge qui était au bout avec les prix, les récompenses. Et là, tu courais et tu avais les yeux fixés en courant. C'était motivant parce que tu regardais les récompenses au bout qui t'attendaient. Alors, courons avec persévérance la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Et c'est le but du chapitre 11, que nous marchions par la foi, que nous puissions courir avec persévérance cette course de la vie chrétienne, tout en gardant les yeux sur Jésus. Et pour nous aider à y arriver, l'auteur va dresser devant nous une liste d'histoires provenant de l'Ancien Testament, des personnages qui ont marché par la foi. Et en arrivant vers la fin du chapitre 11, l'auteur veut nous faire comprendre, il étale finalement la raison pour laquelle il nous donne toute cette liste de témoins. Il veut nous aider à comprendre que malgré ces épreuves que nous pouvons avoir dans la vie, malgré les épreuves qu'on a vues à travers tous les témoins qu'il va donner, on voit Dieu qui était à l'œuvre, qui n'a pas été surpris par ces épreuves. Ce n'était pas une parenthèse, un accident, une interruption. Dieu, en fait, était souverain et au contrôle à travers toutes ces histoires difficiles et Dieu était justement à l'œuvre. Donc, courons avec persévérance, même quand c'est difficile, parce que Dieu est en train d'accomplir son œuvre. Et ça, c'est vraiment le message que nous avons ici. Nous commençons la lecture au verset 23. C'est un exemple que l'auteur va nous donner avec les parents de Moïse. Donc, tournons ensemble, si vous voulez bien, Hébreux chapitre 11. Et nous allons juste lire le verset 23 en ce moment parce que différents personnages, on va s'arrêter puis on va lire des versets qui vont suivre un peu plus tard. Donc, verset 23, qui parle des parents de Moïse. Voici ce qu'il est dit. « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. » L'auteur parle des parents de Moïse et leur histoire de foi. On se rappellera à l'époque de Moïse, le peuple d'Israël était vraiment comme des esclaves. Et le peuple grandissait, se multipliait de plus en plus, et si bien que le roi, le pharaon, avait peur d'avoir une insurrection, et il soit débarqué, même tué. Donc, il a pris une décision affreuse, et il a fait un édit, un ordre, il a donné l'ordre de faire tuer tous les enfants, les jeunes enfants mâles. Et ils étaient seulement pour garder les filles. C'était vraiment un génocide épouvantable, une époque très sombre dans l'histoire d'Israël, dans le peuple de Dieu. La vie était menacée. Et une fois que la décision était prise par Pharaon de faire tuer les enfants mâles, on voit dans Exode chapitre 2 l'histoire très touchante des parents de Moïse et comment la vie continue en dépit de la décision de Pharaon. Nous lisons dans Exode chapitre 2, verset 1, « Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une lévite. » Voici cet homme qui tombe en amour dans cette période très sombre de l'histoire. Il tombe en amour avec une femme, la prend, et nous lisons verset 2, « Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. » Étant une femme juive, elle savait que cet enfant était un don de Dieu, créé à l'image de Dieu. Tuer cet enfant, c'était un meurtre, c'était un crime, c'était un péché contre Dieu. Alors, elle va risquer sa propre vie ainsi que celle de son mari. Elle va cacher son enfant pendant 3 mois. À un moment donné, après 3 mois, c'est difficile de le garder, impossible même d'ailleurs. Alors, après 3 mois, elle et son mari voient bien qu'il est difficile de le garder plus longtemps à la maison. Elle va le placer dans une corbeille et l'emmène parmi les roseaux au bord du Nil. Intéressant parce que le mot corbeille ici, c'est le même mot pour l'arche de Noé. Et ça devient comme une petite arche de salut. Voici la petite arche qui permettra à Dieu d'accomplir son plan de salut pour son peuple. Et c'est exactement ce que le Seigneur va accomplir. La fille de Pharaon va descendre à la rivière et elle voit la corbeille et elle voit l'enfant. Et le texte dit, elle a pitié de l'enfant. Il est beau, attachant et elle va le prendre. Elle va demander à l'une de ses servantes de trouver une femme qui pourrait en prendre soin. Et hasard de Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de coïncidence, on appelle ça une dieucidence, alors que Dieu permet que ce soit la propre mère de Moïse qui va prendre soin de cet enfant-là. C'est un rendez-vous divin. Imaginez, la mère de Moïse est maintenant payée par la maison de Pharaon pour prendre soin de son propre enfant qui aurait dû mourir. Est-ce que Dieu est souverain? Absolument. Avec le temps, la fille de Pharaon va prendre cet enfant, va l'adopter, va en faire son fils, elle devient sa mère. Et le fils qui devait mourir selon l'ordre de Pharaon est maintenant sous les soins de la maison de Pharaon. Et maintenant, il est considéré comme un fils et même comme un prince. Et cet enfant deviendra plus tard un agent de salut pour Israël. Il est l'instrument entre les mains de Dieu par lequel le plan de salut de Dieu va s'accomplir. C'est une histoire extraordinaire où l'on voit l'accomplissement du plan de Dieu, le plan rédempteur de Dieu. Mais ce qui est frappant à travers cette histoire, c'est que toutes ces choses se sont réalisées, nous dit le texte, à travers la foi de ses parents. Nous lisons dans Hébreux 11, 23, qu'on a lu tantôt, « Par la foi, ses parents, les parents de Moïse, le tinrent caché pendant 3 mois après sa naissance. » Les parents de Moïse avaient un choix à faire. Allaient-ils obéir à l'ordre du roi et laisser aller son fils, ou allaient-ils faire confiance en Dieu et sa protection pour faire tout ce qu'ils pouvaient pour protéger cet enfant qui était un don de Dieu? On voit dans les Écritures que les enfants sont un don de l'Éternel. Voici une situation terriblement effrayante. C'est une question de vie ou de mort. Ce couple était sous la menace du roi. Il faisait face à la colère et à la honte de ce grand empereur très puissant. Mais ce jeune couple a décidé de marcher par la foi et de vivre par la foi. Et Dieu travaille à travers cette foi pour accomplir son plan rédempteur, non seulement pour cet enfant, mais même pour la nation tout entière, comme on le voit plus tard, et même pour vous et pour moi. Les parents de Moïse ont vécu par la foi à une époque très dangereuse. On arrive maintenant à Moïse. Il vieillit, c'est rendu le verset 24, Hébreux 11. Il y a un laps de temps d'environ une quarantaine d'années entre le verset 3 et le second « par la foi » qui couvre les versets 24 à 26. Moïse va s'identifier maintenant à son peuple juif par la foi. Verset 24, nous lisons « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. » Moïse a publiquement refusé le titre de fils de Pharaon. C'est toute une insulte en passant pour Pharaon. C'est grave et c'est dangereux. Et lorsque Moïse vieillit, il voit un Égyptien battre un Hébreu. Et rappelons-nous que les Juifs, à ce moment-là, sont des esclaves dans le pays. Et c'est un point vraiment tournant dans la vie de Moïse. Il tue l'abuseur afin de protéger l'abusé, un Hébreu. Et en faisant ce choix, il abandonne ses privilèges et devient un fugitif. Il est forcé de fuir l'Égypte et laisser derrière lui tout le confort. Et pourquoi a-t-il fait ce choix? Eh bien, nous disons, verset 26, il est dit que Moïse considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les regards fixés sur la récompense à venir. Dans la nouvelle version qui s'appelle le Nouvel Français courant, il est dit, le même verset, verset 26, « Il estima qu'être méprisé comme le Christ avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait les yeux fixés sur les récompenses futures. » En rejetant les trésors de l'Égypte pour s'associer au peuple de Dieu, c'est comme si Moïse disait, « Oui, c'est sûr, les trésors de l'Égypte m'appartiennent, sont à moi, les plaisirs de la vie de cette société pécheresse m'appartiennent. » Mais je vois un plus grand trésor attaché au peuple de Dieu parce qu'il détient les promesses de Dieu. Moïse s'est dit, Dieu a promis de nous sauver le peuple, de sauver la nation d'Israël. Il a promis de nous conduire sur notre propre terre. Il a promis de nous bénir et bénir les autres. Alors, de choisir le peuple de Dieu et choisir les richesses des promesses de Dieu signifie pour un temps de subir des temps d'épreuve pour Moïse. J'aime bien ce que Ken Hughes va dire à l'endroit de ces passages. Il dit, « Comment Moïse a-t-il pu tourner le dos aux délices égyptiens et embrasser les afflictions de son peuple stigmatisé? La réponse révèle sa foi. Il considérait la disgrâce pour le Christ comme plus importante que les trésors de l'Égypte, car il attendait sa récompense. Lorsque Moïse s'est identifié à Israël, il s'est aligné sur le peuple avec lequel Jésus-Christ avait été identifié dès le début. Il n'a jamais fait qu'un avec son peuple. Dans toute leur détresse, il fut lui aussi affligé. Ainsi, l'identification de Moïse à la disgrâce du peuple messianique était une identification au Christ. Et il a enduré la disgrâce à cause de Christ. La grande vérité pour nous est que Moïse a pu faire cela parce qu'il attendait sa récompense. Et ici, l'auteur nous ramène au verset 1 lorsqu'il est dit que la foi, c'est cette ferme assurance des choses qu'on espère, tout simplement sûr de sa récompense. Lorsque Moïse a choisi de subir les afflictions d'Israël, il faisait ultimement un choix pour le Sauveur d'Israël qui allait venir. Moïse était satisfait de subir ses afflictions au lieu des trésors de l'Égypte parce que le livre aux Hébreux nous dit qu'il avait les yeux fixés sur les récompenses et sur les promesses du salut de Dieu. Il ne savait pas comment Dieu allait réaliser ce salut. Il n'avait pas les détails, la naissance miraculeuse qui arriverait un jour à Bethléem avec Jésus. Mais il regardait au jour de délivrance qui allait venir et qui est venu à travers Jésus, tel que les promesses de Dieu l'annonçaient. Verset 27 d'Hébreux 11 dit ceci, « C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. » Même si ce roi d'Égypte et toute cette fureur était très palpable, c'était visible, pour Moïse, le Dieu invisible et souverain était beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant. Plaire à ce Dieu invisible était plus important pour lui. C'était aussi ce qui motivait l'apôtre Paul, comme on le verra dans une lettre aux Corinthiens. Paul a passé à travers des épreuves incroyables, la persécution comme enfant de Dieu et comme apôtre. Mais voici ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 4, 16. « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, dit Paul. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères, mais les réalités invisibles sont éternelles. La vie chrétienne, c'est surnaturel. Et ça doit être mené, ça doit être vécu de manière surnaturelle. Voici l'explication de Ken Hughes que j'ai bien aimée. Il dit, « Je sais ce qui pourrait produire une telle foi en chacun d'entre nous. Tiens, 60 secondes au ciel, 15 secondes pour voir le visage du Christ, bien qu'il soit impossible de déplacer notre regard après un temps aussi court. 15 secondes pour scruter l'autre angélique. 15 secondes pour apercevoir l'architecture du ciel. Et 15 secondes pour contempler le visage d'un être cher maintenant glorifié. C'est tout ce qu'il faut. Mais Dieu ne le fera pas pour aucun d'entre nous. Je pourrais prier jusqu'à ce que mon visage soit bleu et je n'aurai pas une seconde au ciel avant l'éternité. Je sais ce qu'il pourrait le faire. Et c'est tout simplement ce que Moïse a fait. Croire à la parole de Dieu. Et nous pouvons tous le faire maintenant. Et si nous avons du mal à croire, nous devrions lire attentivement ces passages, puis demander à Dieu la capacité de croire et ensuite croire. Parce que Moïse servait le Dieu Tout-Puissant. Il a persévéré même si sa vie était difficile. Loin de la sécurité de l'Égypte, loin du confort, loin du palais, loin de tous les biens matériels que pouvait lui offrir l'Égypte. Mais en le faisant, il faisait confiance aux promesses de Dieu qui allait le protéger. Le verset 28 dit ceci, « C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. » Dieu a appelé Moïse à marcher à travers une époque dangereuse et conduire la nation d'Israël à travers une époque très grave et très sombre. Il défiait la puissance et le plus grand souverain du monde, Pharaon. Il a dirigé la nation juive à travers 10 plaies. 10 plaies que Dieu a envoyées en Égypte pour libérer son peuple. Et Moïse a dû faire confiance en Dieu et attendre par la foi. Parmi les 10 plaies, celle qui était certainement la plus effrayante était la mort des premiers-nés de chaque foyer dans le pays. Et Dieu a montré à Moïse comment échapper à ce jugement. Il s'agissait de prendre un agneau sans défaut et le tuer et mettre du sang sur les linteaux des portes. Et l'ange de la mort passerait au-dessus, ce qu'on appelle Passover, passerait au-dessus des maisons lorsqu'il voyait le sang et épargnait les gens et sauvait les gens qui étaient dans le foyer, couverts par le sang de l'agneau. Alors, par la foi, Moïse fait ce que le Seigneur lui demande et conduit le peuple au salut. Pâques était toute une image du salut à venir à la personne de Jésus, ce grand et plus grand salut à venir. Et toutes ces choses anticipaient la venue de Jésus et son salut. La parole de Dieu nous dit qu'un jugement approche. Et c'est ce que nous avons lu tantôt au chapitre précédent. Encore bien plus de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Jésus approche, Jésus revient. Il revient bientôt et le jugement vient, un jugement beaucoup plus grand qu'à l'époque de Moïse, une plaie encore plus désastreuse lorsque Dieu demandera des comptes au monde qui a rejeté son Fils Jésus-Christ. La Bible appelle cela le jugement dernier. Mais Dieu nous offre une provision, sa provision, Jésus-Christ. Il est le seul par qui nous pouvons être sauvés. Alors marchons par la foi, faisons entièrement confiance en la provision de Dieu en mettant notre foi en Jésus et en marchant avec lui, par la foi. Mettons-nous à l'abri sous le sang de Jésus, l'agneau parfait, sans tache, qui est mort, afin que nous ayons la vie. Par la foi, Moïse a célébré la Pâque. Il a conduit le peuple à garder la Pâque, nous dit le texte, et il fut sauvé. Le fait que Moïse et Israël ont tellement cru en Dieu qu'ils ont obéi à Dieu à la lettre. C'est intéressant, le commentateur Raymond Brown explique ceci. Il dit « Les instructions étaient étranges. Des exigences coûteuses, un agneau sans défaut, et le rituel sans précédent. Mais ils ont fait exactement ce qu'on leur a dit. Simplement par la foi, ils ont gardé la Pâque. Ils s'en remettaient au Dieu qui leur avait parlé par l'intermédiaire de son serviteur. Nous lisons dans Exode, le peuple d'Israël, alors il fit ainsi. Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est que l'expression « par la foi, il a gardé la Pâque » signifie en fait qu'il a institué la Pâque. C'est par la foi que Moïse a institué la Pâque comme une ordonnance à faire année après année, nous dit Exode 12. Ce que signifie que Moïse n'a jamais douté, le moins du monde, que le peuple serait délivré d'Égypte. Il n'avait rien d'autre à faire que de suivre la parole de Dieu. Mais il la croyait implicitement et sa foi a sauvé Israël. Dieu aurait pu empêcher et éviter que Moïse vive toutes ces épreuves, mais Dieu a permis à la famille de Moïse, et Moïse aussi, de vivre toutes ces choses éprouvantes. Et il s'en est servi pour réaliser son plan et apporter le salut. L'expérience de Moïse n'était évidemment que l'ombre des choses à venir avec Jésus. Jésus a vécu de plus grandes souffrances. Il a subi la haine des chefs religieux, la colère même de l'Empire romain. Il a subi un procès injuste, du mépris, la persécution, l'abandon et même la mort, la crucifixion. Chapitre 12 nous dit que Jésus a traversé toutes ces choses en marchant par la foi. L'auteur nous rappelle toutes ces choses afin que nous aussi nous puissions à notre tour marcher par la foi, même quand c'est difficile. Il veut nous voir courir avec persévérance cette course qui est devant nous en gardant nos yeux fixés sur Jésus. Maintenant, l'auteur du livre aux Hébreux va passer à travers toute la génération de l'Exode qui a quitté l'Égypte pour voyager vers la terre promise. Et puis là, il va continuer avec Jéricho, avec Rahab, cette prostituée qui a hébergé les espions d'Israël. Et on voit son témoignage de Rahab, comment elle a marché même par la foi. Verset 32, l'auteur dit, « Que dirais-je encore? Le temps me manquerait, en effet, pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et tous les prophètes. » Tous ces personnages qui ont vécu à l'époque de l'Ancien Testament ont vécu par la foi dans des moments incroyablement difficiles et dangereux. Mais ils ont vu Dieu travailler à travers ces épreuves afin d'accomplir son plan de salut pour son peuple. Des gens qui ont mis leur espoir en la résurrection à venir, nous dit le verset 35. Et là, Dieu qui inspire cette parole ajoute ce petit détail qui est tellement doux. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur ce verset-là, mais c'est frappant. Verset 38. « Eux dont le monde n'était pas digne. » eux dont le monde n'était pas digne. Imaginez le Seigneur qui regarde le monde et dit, ils ne sont pas dignes d'avoir mes enfants qui viennent, qui vont là pour les aider à connaître mon salut. Moi, je n'étais pas digne de recevoir des gens dans ma vie qui m'ont présenté l'Évangile. C'est incroyable. Moi, j'ai déjà fréquenté une fille qui s'est convertie, devenue chrétienne, et je l'ai laissée. Je l'ai laissée faire. J'ai coupé ma relation avec elle. J'ai cassé. Je ne sais pas si ça existe encore, des jeunes. C'est quoi le nom? Peut-être que je ne devrais pas savoir de nouveau nom. C'est comme, j'ai entendu toutes sortes de mots quand tu brises une relation avec une fille. Hey, imaginez, j'ai laissé cette fille-là parce qu'elle était chrétienne. Moi, je suis certain que Dieu regardait, là, il me regardait et il devait dire, « Bon, on sent que tu n'es pas digne de recevoir cette femme-là dans ta vie, toi. » Puis vous savez que Dieu s'est pris par trois fois à différents moments de ma vie pour m'envoyer des gens qui m'ont présenté l'Évangile avant que j'ouvre mes yeux, que je comprenne. Hey, ça, c'est la grâce. La grâce. Je n'étais pas digne, moi, de recevoir ces trois rencontres-là dans ma vie, ces trois rendez-vous divins où Dieu voulait me sauver, Dieu voulait que... venir dans ma vie et m'aimer, je n'étais pas digne de recevoir toutes ces... Dieu aurait pu arrêter à la première rencontre. Maintenant, l'auteur du livre aux Hébreux dit ne pas avoir le temps d'énumérer d'autres personnages, mais son point est vraiment simple. Son message est vraiment simple. Il nous appelle à avoir assez confiance en lui pour faire sa volonté, quoi qu'il arrive, même quand c'est difficile. Et ça change notre vision des choses, hein? Lorsque tu passes à travers des épreuves, des temps difficiles, ta vision est complètement différente. Lorsque tu sais que Dieu est à l'œuvre dans ta vie, malgré des circonstances difficiles et éprouvantes, tu marches par la foi à travers ça, sachant, en regardant tous ces témoins du chapitre 11, que Dieu s'est servi de toutes ces épreuves dans la vie de ces femmes et de ces hommes de Dieu qui ont marché par la foi, que Dieu s'est servi de ça pour accomplir son plan. Ça change. Ça atteint complètement notre vision, même des épreuves dans notre vie. L'autre jour, je lisais une lettre qui a été écrite par un papa. Imaginez, il écrit un blog, il s'appelle Tim Charles, et il écrit cette lettre le lendemain que son fils est mort. Tu vois son cœur, vraiment là, le lendemain qu'il apprend que son fils vient de mourir. Son fils vient de mourir la veille. Écoutez bien les paroles de sa lettre. Il nous annonce, « Mon fils, mon cher fils, est allé rejoindre le Seigneur. Depuis toutes ces années que j'écris, je n'ai jamais eu à taper des mots plus difficiles, plus dévastateurs que ceux-ci. Hier, le Seigneur a appelé mon fils à lui, mon cher fils, mon doux fils, mon gentil fils, mon fils pieux, mon fils unique. Nick jouait à un jeu avec sa sœur et sa fiancée et avec de nombreux autres étudiants lorsqu'il s'est soudainement effondré, ne reprenant jamais conscience. Les étudiants, les ambulanciers, les médecins se sont battus vaillamment, mais n'ont pas pu le sauver. Il est avec le Seigneur qu'il aimait, le Seigneur qu'il désirait ardemment servir. Nous n'avons pas de réponse aux questions « quoi » ou « pourquoi ». Hier, Eileen et moi avons pleuré, et pleuré jusqu'à ce que nous puissions plus pleurer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes pour pleurer. Puis, plus tard dans la soirée, nous nous sommes regardés dans les yeux et nous avons dit « nous pouvons le faire ». Nous ne voulons pas le faire, mais nous pouvons le faire. Ce chagrin, cette douleur, cette dévastation, parce que nous savons que nous n'avons pas à le faire par nos propres forces. Nous pouvons le faire comme des chrétiens, comme un fils, comme une fille du Père, qui sait ce que c'est que de perdre un fils. Nous avons voyagé toute la nuit pour nous rendre à Louisville afin de pouvoir être ensemble, en famille. Et nous vous demandons de vous souvenir de nous dans vos prières, alors que nous pleurons notre perte ensemble. Nous savons qu'il y aura des jours et des nuits éreintantes à venir, mais pour l'instant, notre espoir est fixé et notre foi tient bon. Notre fils est à la maison. Seigneur Dieu, Combien avoir la foi en toi change notre perspective, change notre vision. Quelles que soient les preuves qui nous arrivent et auxquelles on peut être exposé, toi, Seigneur, nous savons que tu es là et tu agis. Tu accomplis ton œuvre. Et parfois, tu permets qu'on passe à travers des épreuves pour nous rendre meilleurs, nous fortifier. On ne sait pas pourquoi, Seigneur. Il y a tellement de pourquoi dans cette vie. On ne connaît pas les réponses et c'est la raison pour laquelle nous voulons marcher par la foi, parce que nous savons que tu nous aimes. Tu veux notre meilleur. Tu nous aimes, Seigneur. Nous sommes tes enfants pour nous qui avons Jésus dans notre vie. Alors, Seigneur, nous remettons à toi. Nous remettons notre vie entre tes mains et nous voulons courir cette course qui est devant nous, que tu as préparée d'avance afin qu'on accomplisse plein de bonnes œuvres, de belles œuvres pour ta gloire. Seigneur, nous voulons courir cette course, gardant les yeux fixés sur celui qui nous attend au bout de la piste, Jésus-Christ. Les mains pleines de récompenses, le sourire aux lèvres, les bras grands ouverts, qui veut nous accueillir dans l'éternité. Seigneur, tu dis qu'un jour nous serons au ciel, nous, tes enfants, nous pourrons jouir de ta présence. Il n'y aurait plus de douleur, plus de souffrance. Je pense à la famille Charles en ce moment qui sont en deuil. On prie pour eux, Seigneur, que tu puisses les fortifier pendant ce temps tellement difficile. Quelle épreuve de perdre son fils unique. Mais toi, tu comprends. Tu as perdu ton fils unique à la croix. Ton fils a été méprisé, fouetté devant tes yeux. Combien ton cœur devait être déchiré, brisé, de voir un cœur si tortueux, le monde qui a été tellement rebelle et tortueux à l'endroit de ton Fils. Merci, Seigneur, de cette grâce que tu nous fais aujourd'hui, d'avoir Jésus comme Sauveur. Et je te prie, Seigneur, s'il y a des gens qui nous écoutent, soit ici ou en ligne, qui n'ont pas fait encore ce pas de foi de dire oui à Jésus, qu'ils le fassent maintenant, qu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont été rebelles à toi, Seigneur, et qu'ils ouvrent leur cœur à toi et qu'ils croient que leur péché a été réglé à la croix grâce à Jésus. Qu'ils ouvrent leurs bras grands ouverts et qu'ils cèdent leur vie à Jésus qui les a tant aimés, qui s'est donné sur la croix pour nous sauver. Merci, Seigneur, pour ton salut. Merci pour ta parole. Et accorde-nous cette grâce de courir cette course. Au nom de Jésus. Amen.